5. Attendez-vous à plus. Une vue d'ensemble de l'actualité.
On est un peu estomaqué qu'une proposition aussi insensée, inapplicable, soit maintenant considérée par la CAQ comme étant la solution. Alors, notre solution à nous, elle est réaliste. Elle ne dépend pas de l'avis du gouvernement fédéral. Elle dépend entièrement de notre capacité d'agir. Notre capacité d'agir pour le français, notre capacité d'agir pour les régions, notre capacité d'agir pour assurer le succès de chaque immigrant qu'on reçoit chez moi.
C'était Jean-François Lisée qui nous parlait donc de cette proposition sur l'immigration qu'il a déposée ce matin, enfin qui vient compléter d'autres propositions qui ont été faites sur le même sujet au fil du temps. Et pour discuter de cela et de bien d'autres choses, Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité. Bonjour Alec.
Bonjour.
Et Paul Journet qui prend le relais d'Antoine cette semaine, éditorialiste à la presse. Paul Journet, bonjour.
Bonjour.
Alors, mon cher Alec, j'ai une proposition à te faire.
On commence par Paul.
On va y régler son cas.
Oui.
OK? Ben. Parce que nous, c'est le. Tu arrives dans un marais.
Oh,
le marais des batraciens.
Heureux de l'apprendre en direct.
Absolument. Ah oui, tu savais pas, hein? Alors, tu as devant toi le Wawaron en chef.
Ça, c'est moi.
Ça, c'est Alec.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Bon, le crapaud étant absent.
Oui. C'est Antoine.
Ça, c'est Antoine. Moi, je suis la grenouille. Et je propose, Alec, que Paul soit notre petite rainette faux-grillon. Elle est très rare.
Elle est très rare.
Et lui, c'est de la visite rare.
Elle est pourtant essentielle à l'écosystème.
Écoute ça. Elle est jolie, la rainette, non?
Ben oui.
Hein?
Domicilié principalement sur la rive sud, mais
oui.
S'il y a une loi pour contrer ma possible disparition, je ne m'y objecte pas. Très heureux de savoir que les gouvernements se liguent pour protéger ma survie.
Voilà. Et je t'assure qu'Alec et moi, on va protéger ta survie.
Oui, ça, c'est très correct.
C'est correct,
de
ça?
De votre part, très correct.
Bon, mais voilà, ton cas étant réglé, tu es protégé maintenant. On va maintenant enchaîner donc avec nos nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants, donc... Qu'est-ce que tu en penses de cette proposition de Jean-François Lisée, toi?
Ben, il y a plein de choses là-dedans. Là. Premièrement, le PQ se demande combien d'immigrants on devrait accueillir.
Oui.
Parenthèse, on parle toujours ici de l'immigration économique, donc celle qui est sélectionnée par le Québec, qui exclut l'immigration humanitaire, c'est-à-dire les demandeurs d'asile, réunification familiale, qui, elle, relève du fédéral. Donc, le Parti québécois répond aux questions suivantes. Combien d'immigrants est-ce qu'on devrait accueillir? Qui est-ce qu'on devrait sélectionner? Et une fois qu'ils arrivent au Québec, où est-ce qu'il devrait aller? La première question, le combien? Bon, on sait que la Coalition Avenir Québec veut réduire temporairement le nombre d'immigrants à 40 000. Le PLQ, eux, c'est grosso modo le statu quo, autour de 50 000. Le PQ dit que c'est le vérificateur général qui devrait décider. J'aimerais ça savoir ce que le vérificateur général en pense, parce que c'est une question qui est quand même assez politique. C'est pas une question qui est seulement comptable.
On s'entend.
Donc, ça,
moi,
j'ai des interrogations
là-dessus. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une mauvaise idée.
Parce que c'est le vérificateur général est là pour répondre au mandat des parlementaires.
C'est une comptable.
Oui, c'est exact. C'est des vérifications, mais c'est un choix très, très politique. Puis tu peux pas déterminer dans l'abstrait combien d'immigrants on devrait recevoir. Tout ça dépend des objectifs politiques que tu as. En vertu de quels critères tu les admets, la grille, tout ça. Donc, c'est très politique.
C'est botté en touche.
Ah,
on s'entend, c'est botté en touche. C'est comme la patate chaude est tellement chaude qu'on veut pas trancher le débat et donc...
Et on veut se distinguer, évidemment, de la Coalition Avenir Québec puis des libéraux.
Quelle compétence a la vérificatrice générale pour juger de la capacité d'intégration, des seuils? Il n'y a pas de chiffre parfait, là. Sinon, ça ferait longtemps qu'on aurait arrêté d'en débattre. Il y a une décision politique d'un gouvernement élu qui propose quelque chose, puis si les gens embarquent, ben ils votent en faveur de cette politique-là. Puis s'ils sont pas heureux après un ou deux, trois mandats, ben ils votent contre. Je veux dire, c'est... L'imputabilité politique, ça existe toujours. Remettre ça dans les mains de fonctionnaires neutres, là, comme la vérificatrice générale, pour un débat aussi délicat que l'immigration, moi, je trouve que botter en touche, c'est la bonne expression.
Ouais.
C'est, on se débarrasse de la patate chaude parce que nous, on veut pas assumer un chiffre. Ben, je trouve que, je sais pas, il me semble qu'on est capable au Québec d'avoir ce débat-là puis d'assumer le chiffre qu'on propose.
On n'a pas besoin non plus de donner un chiffre. Là. Le Parti québécois a raison de dire que ce serait arbitraire de dire, par exemple, ben, nous, c'est 47, nous, c'est 48. Voyons voir exactement quel programme on met en place,
année. C'est
quoi la grille, puis on le révise à chaque année.
Mais
ouais, évidemment, il
n'y
a pas que ça là, que le Parti québécois propose,
non,
il y a plein d'autres
mesures.
Aussi, le Parti québécois se positionne de façon différente sur le français.
Oui.
Là, c'est intéressant, c'est encore une fois, c'est le contraire de la CAQ.
Exact.
La CAQ, eux, ils ont pas, ils relâcherait les exigences par rapport aux Français, mais ils disent en contrepartie, on mettrait les bouchées doubles pour la francisation.
Une fois arrivé.
Exact, une fois arrivé. Et ils prétendent que si on baisse un peu le nombre d'immigrants qu'on accueille, on va réussir enfin à les franciser. Reste à voir. Le Parti québécois, c'est le contraire. Ils veulent augmenter le pointage dans la grille des gens qui parlent français. Parce qu'on sait, quand tu es un immigrant sélectionné par le Québec, ben, tu dois remplir une grille. Et puis, il y a plein de critères. Sauf que c'est des bases communicants. Si tu accordes plus de poids à la connaissance du français, forcément, tu vas accorder moins de poids
aux autres catégories
à la formation professionnelle. Mm. Puis on le sait que l'immigration, l'intégration, ça se fait essentiellement de deux façons. Par la langue, c'est vrai, mais aussi par l'intégration au travail.
Moi, je dirais
si
l'emploi.
On donne moins de poids, ouais. Le travail en premier,
ah, oui.
Je suis d'accord.
Ah, oui.
Et si on donne moins de poids à la formation professionnelle, ben, est-ce qu'on se tire dans le pied? Est-ce qu'on va réussir à sélectionner les candidats qui ont le plus de chances de s'intégrer?
J'ai posé cette question-là tout à l'heure, parce que dans leur document... Parce que t'es vraiment, Paul, tu as raison, c'est vraiment le cœur de l'affaire, là. Et dans leur document, c'est écrit, il y a une sous-section, une idée fausse, deux points, il n'y a pas assez de francophones pour combler les besoins en main-d'œuvre du Québec. Et là, je lui ai posé cette question-là à Lisée tout à l'heure, et il m'a dit, écoute, là, il y a assez de francophones, pas juste dans les pays francophones, mais dans les pays, par exemple, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, tu as des gens qui ont une connaissance du français. C'est pas nécessairement, c'est certainement pas leur première langue dans la majorité des cas, mais ils ont une connaissance correcte du français qui nous permettrait donc de les recruter, d'aller les chercher dans des pays comme l'Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas. Là, ils donnent un certain nombre de chiffres, c'est des millions là, de personnes dans ces pays-là qui parlent le français. Et donc, lui... En plus du bassin des pays francophones, il y a ces bassins-là de disponibles. Qu'est-ce que tu...
C'est vrai, mais je trouve ça intéressant qu'il analyse de cette façon-là, parce que souvent, on parle de l'immigration comme étant un problème, mais là, ça montre concrètement comment ça se fait au ministère de l'immigration. C'est que le Québec est aussi en compétition avec d'autres juridictions, d'autres provinces, d'autres pays pour attirer les candidats les plus qualifiés. On est vraiment dans une compétition. Puis M. Lisée n'a pas tort de dire qu'on pourrait aller chercher des candidats à l'extérieur qui parlent français. Toujours faut-il les attirer, être capable de reconnaître leur diplôme, que leur job soit régi par un ordre professionnel ou non. Mais une chose que j'ajouterais à la réflexion de M. Lisée, c'est que les immigrants qui ont le plus de chances de s'intégrer dans le marché du travail et dans la société québécoise, c'est pas mal les étudiants étrangers qui sont déjà en visite au Québec, qui ont fait leurs études ici. Donc, ça facilite forcément la reconnaissance de diplômes. En fait, on n'a pas besoin de les reconnaître de façon différente, puisque c'est des diplômes québécois. Mm-hmm. Ça, c'est les candidats pour qui c'est le fruit à portée de la main.
Oui.
Et pour toutes sortes de mauvaises raisons, on ne réussit pas à les attirer. Puis ça a été soulevé par différents rapports, entre autres Montréal International, l'Institut du Québec, qui nous ont dit « misez là-dessus ».
Parce qu'ils sont déjà ici, ils ont déjà une certaine sensibilité. Hein, tu te promènes dans une ville déjà, c'est un début d'intégration.
T'es en cours d'intégration, tout à fait.
Ils ont un diplôme d'ici.
Oui.
Donc là, on ne pourra pas se cacher derrière le fait que les équivalences ne sont pas les bonnes.
Oui,
c'est bon.
Ça arrive souvent. Là,
ouais. Hein? Ben puis les équivalences, on sait qu'il y a en gros, tu as les métiers qui sont régis par un ordre professionnel, ceux qui ne sont pas régis par un ordre professionnel. Un ordre professionnel, par exemple, ça peut être vétérinaire, dentiste, ingénieur, etc. Il y a une loi qui a été adoptée l'année dernière par le gouvernement Couillard qui est censée améliorer les choses, mais il faudra voir là, en pratique. Là, des fois, c'est dans le détail que les problèmes se révèlent. Puis la troisième question à laquelle le Parti québécois essaie de répondre, je la trouve bien intéressante, pas seulement combien d'immigrants accueil ou qui on sélectionne, mais aussi où est-ce qu'ils vont aller une fois qu'ils arrivent au Québec. On le sait, il y a très, très peu de nouveaux arrivants qui, une fois arrivés au Québec, se rendent en région. Je pense que Alec a les chiffres devant lui.
Mais moi, je suis un gars de chiffres.
Mais
je les ai
à peu près, on est même pas 1/5 hein, qui se rendent en dehors de la région du Grand Montréal. Le Parti québécois, ce qu'il propose, c'est de modifier le pointage dans la grille parce que dans la grille, on vous demande si vous avez une offre validée d'emploi et on vous demande où elle est. Et le PQ dit ben, si l'offre validée d'emploi qu'un candidat a ne se trouve pas à Montréal, si elle se trouve en région, on devrait augmenter le nombre de points, donc sélectionner en priorité les gens. Écoutez, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être un facteur de réussite parmi d'autres, mais il faut dire que l'immigration, bon, il y a la grille, l'aspect bureaucratique, technocratique, mais c'est d'abord et avant tout des histoires d'humains. C'est pas des blocs légaux là, qu'on essaye d'emboîter les uns dans les autres selon les critères. Là. Moi, il y a des histoires qu'on me racontait, par exemple, en région, un employeur qui essaie d'attirer un candidat en Abitibi, je pense que c'était à Rouyn-Noranda, puis il disait, ben le boulot m'intéresse, mais si je viens avec ma famille, puis ma femme, elle a peur d'avoir de la difficulté à rencontrer des gens ou avoir la difficulté, elle aussi, à trouver un emploi. Puis là, c'est les élus locaux, l'employeur qui travaille en concertation. Donc, c'est pas juste des grands programmes, là, puis des grands paramètres. Là, c'est des histoires humaines, puis du travail vraiment de concertation entre les élus locaux et les employeurs.
Mais la régionalisation de l'immigration, là, la manière dont on parle actuellement, là, c'est un échec assez cuisant au Québec.
Ah, c'est incroyable.
Quand tu regardes les chiffres, parce que je les ai devant moi du ministère de l'Immigration, et on a d'abord la région de Montréal métropolitain, là, c'est assez restrictif dans la description du ministère de l'Immigration. Écoute, c'est Montréal, Laval, Longueuil.
Okay.
Alors, si tu habites à Repentigny, Candiac, Vaudreuil, Boisbriand, Blainville, tu n'es plus dans la région de Montréal, selon le ministère de l'Immigration. Alors, quand tu fais la grande
région... Mais t'es dans le trafic de Montréal, par exemple.
Oui, t'es pas mal dans le trafic de Montréal. Donc, quand tu mets la vraie grande région de Montréal, au sens où nous, on l'entend, donc une banlieue où tu peux aller travailler en ville, tu arrives à plus de 92 % de l'immigration qui s'installe dans la grande région de Montréal. Donc, t'en as moins d'un sur dix qui, en réalité, va à Québec, dans l'Outaouais, en Abitibi, en Beauce. Donc,
là où sont la majorité des emplois disponibles.
La pénurie de main d'œuvre
la pénurie. Parce que la pénurie de main d'œuvre là aussi, c'est assez... Ça dépend d'un métier à l'autre. C'est assez localisé selon les secteurs d'emploi puis selon les régions géographiques.
Selon la Chambre de commerce, la Fédération des Chambres de commerce, à qui on a parlé un petit peu plus tôt, c'est 55 % des emplois disponibles qui se trouvent en région présentement. Alors que la vaste majorité, comme tu le dis, Alex, s'installe plutôt dans la grande région de Montréal. Bon, en tout cas, bref, ça alimente le débat et puis ça alimente la discussion. On va juste espérer qu'au terme de cette discussion-là, des solutions vont émerger puis qu'on va régler une partie à tout le moins du problème parce que franchement, on n'est pas bon là. On n'est pas bon. Collectivement, on n'est pas bon.
On a des choses à améliorer.
Mais mettons, hein?
Et l'une des bonnes choses des campagnes électorales à date fixe, parce
oui.
que moi, j'entends souvent dire, là, on a une campagne éternelle, ça fait six mois qu'on est en campagne, c'est bien trop long. Mais on a aussi le temps de débattre de sujets qui, peut-être, en 33 jours, seraient un peu escamotés parce qu'une nouvelle en enterre une autre. Là, on parle d'immigration depuis quoi? 10 jours?
Oui. Puis là, on commence à parler de l'aspect économique parce que quand on parlait d'immigration, souvent, c'est pas l'aspect économique. Là. C'est l'aspect plus identitaire. Puis on va voir en parler tantôt aussi. Les libéraux vont dévoiler cet après-midi leur stratégie de la main-d'œuvre. Puis forcément, il y a une part qui
on
concerne
a le temps,
les nouveaux
arrivants. On a le temps de débattre de certaines choses un peu plus profondes, en profondeur.
J'haïs pas ça, Alex. J'haïs pas ça, ta réflexion là-dessus. Je vais...
je sois vais... profond, Alex.
non, mais c'est parce que j'entends les mêmes choses qu'Alex, moi aussi, sur les élections à date fixe. Et puis, je vois les pour, je vois les contre. Mais Alec vient de souligner, effectivement, un des aspects positifs.
Je sais pas c'est qui a fait ça, les élections à date fixe, mais c'était une maudite bonne idée.
Si on n'avait pas les élections à date fixe, on serait en train de faire un reportage par semaine. Tout le monde aurait sa petite exclusivité à
quand
savoir
est-ce que
ils vont déclencher les élections.
Déclencher.
Ils réfléchissent à possiblement entamer un chantier de réflexion sur le déclenchement d'élections, puis on n'en finirait plus.
Exact.
Puis on perdrait notre temps à parler de la stratégie. Et le gouvernement aurait un avantage déloyal sur les partis de l'opposition quant au choix de la date d'élection.
Même pas le journée, c'est exactement ce que...
C'est exactement si on a convaincu le
ministre,
journée, c'est la preuve que...
Non, mais le ministre qui a déposé cette loi-là, qui l'a fait adopter à l'unanimité de la Chambre, il disait ça, justement.
Ouais, il était bien bon.
Soyons modestes. Bon. Alors, Alec, parle-nous donc un petit peu de ce député libéral, Francis Drouin. Hein, ce qui s'était passé à Halifax, là, on ne savait pas trop. C'était comme un petit peu suspendu. Et là, il y a, une conclusion à la fin.
Oui, le député de Glengarry, Prescott Russell, donc juste de l'autre côté du Québec, là, dans l'Ontario francophone. Donc, Francis Drouin, qui était sous enquête de la police de Halifax pour des événements qui s'étaient produits en marge du congrès du Parti libéral du Canada à la fin du mois d'avril. Souviens-toi, là, il y avait eu une affaire dans un bar où on accusait Francis Drouin. Il y avait des allégations à l'effet qu'il y aurait eu des attouchements sexuels ou une agression sexuelle envers une femme. Lui a toujours plaidé qu'il y avait erreur sur la personne, que dans le fond, on l'avait mal identifié, donc il avait collaboré à l'enquête de la police qui vient de se terminer et qui a effectivement conclu qu'il n'avait rien à voir dans cette histoire-là. Donc, il a émis une très courte déclaration, Francis Drouin, disant « Après avoir examiné les faits, la police d'Halifax a déterminé que l'affaire était terminée. Je suis heureux que cela ait été résolu en fonction des faits. Je n'aurai aucun autre commentaire à ajouter. » Il n'avait pas été exclu du caucus.
Non, c'est
vrai. Donc, il n'a pas besoin d'être réintégré. Alors, l'histoire est close et il n'a rien à se reprocher. Je le dis parce qu'on a passé quand même 2-3 jours à en parler, évidemment, à l'époque où c'était quelque chose chose qui est important. Donc, il faut aussi le dire lorsqu'il n'y a finalement aucune accusation de déposer que l'enquête est terminée.
Je suis bien d'accord. Tu as raison. Il faut, à un moment donné, qu'une fois que le processus est terminé, celui qui a été soupçonné, quand il est blanchi, il faut le dire. Parce que là, à un moment donné, tu peux rester avec l'idée que finalement, il avait fait quelque chose de mal et ce n'était pas,
c'était pas le cas.
On s'arrête parce qu'au retour, on va parler de ce nouveau rapport là, sur les services de garde et Alec va nous parler un petit peu de ce qui se passe dans l'élection partielle de Chicoutimi-Lefier, qui est une élection très importante, 18 juin prochain, dans un instant. De retour avec Alec Castonguay et Paul Journet. Paul, tu en as glissé mot vite, juste avant la pause. La stratégie sur la main-d'œuvre qui va être dévoilée par le premier ministre cet après-midi.
Oui, cet après-midi à 15h. Ouais. C'est quand même surprenant qu'on soit rendu à parler qu'une des promesses importantes pour la campagne électorale, ce soit d'aider les entreprises à trouver des employeurs. Reculons un peu dans le temps. Moi, j'ai couvert des campagnes électorales. Puis en gros, ce que tu fais une journée sur trois, on te met un casque sur la tête, tu visites une usine, puis là, tu as un politicien qui promet des jobs. Parce que ce qui est vendeur en campagne électorale, c'est promettre des emplois. Robert Bourassa l'avait fait, Jean Charest l'a fait, l'a refait, Philippe Couillard l'a fait en 2014. Puis là, soudainement, on réalise que ce qui est important, c'est pas de promettre des emplois aux travailleurs, c'est de promettre aux entreprises des travailleurs qui vont être capables de travailler. Parce qu'en ce moment, on est rendu là, on est vraiment dans une réelle pénurie de main-d'œuvre. On est à peu près rendu au plein emploi. Et le défi, c'est pas de créer des nouveaux emplois, c'est de trouver des employeurs. Puis ça force à repenser plein de choses, entre autres l'aide aux entreprises. Souvent, ce qu'on avait, c'était un crédit d'impôt, par exemple, pour inciter les entreprises à embaucher davantage de gens. Mais là, c'est pas ça qui fonctionne dans un contexte de pénurie de la main-d'œuvre. Il faut que tu revoies toutes tes stratégies, entre autres, d'aide aux entreprises. Puis ça peut passer, par exemple, par des stages payés, la formation payée, où tu dis, si un tel candidat n'a pas la formation pour travailler chez vous, tu peux le prendre sous ton aile, on va avoir une aide, et puis pendant qu'il va être payé par l'entreprise, il va avoir une formation pour se spécialiser, puis une fois qu'il aura complété ça, il pourra travailler avec toi, puis tu pourras miser sur une main-d'œuvre qualifiée. Donc, on devrait avoir les détails de ça cet après-midi.
On pourra y revenir justement au besoin.
Demain midi, oui.
Demain, absolument. Alec, parlons un petit peu de... Ça fait un petit bout qu'on s'en est pas parlé, là, de Martine.
Notre mise à jour
oui.
hebdomadaire oui. du Martine Random
oui, oui.
Qui s'en vient. 1er 2 juin, les 20 000 membres du Bloc vont devoir se prononcer sur le leadership de leur chef et l'orientation du parti. Et là, il y a une sortie publique demain, 10h30, dans l'ancien restaurant Rose et Basilic d'Alma.
Ah!
Et ça se lancera pas de rose. Parce que c'est toute la... Grosso modo, là, l'organisation du Bloc québécois au Saguenay-Lac-Saint-Jean va sortir en bloc, un autre jeu de mots de mon cru.
Oui, oui. Oh boy.
Pour inciter les membres à voter pour mettre dehors Martine Ouellet. Et donc, ce que tu auras demain, c'est 5 anciens députés, anciens candidats, des présidents d'exécutifs du Bloc québécois au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vont prendre la parole puis qui vont dire au mois de juin, il faut que Martine Ouellet quitte la tête du parti. Il va y avoir notamment l'ancien député bloquiste de Chicoutimi-Lefier qui a été élu pendant plusieurs mandats, Robert Bouchard, qui va faire partie de ceux qui vont demander que Martine Ouellet quitte le 1er et 2 juin. Et donc, la région là-bas se mobilise pour que Martine Ouellet perde, mais que je trouve quand même assez inusité, c'est qu'on a une élection partielle qui s'en vient.
Mais j'allais dire...
Le 18 juin.
Habituellement, on se mobilise pour aller chercher des votes.
Oui.
Là, on se mobilise pour mettre à la porte le chef.
Exact. Ça va pas très bien. Et l'exécutif du Bloc québécois dans Chicoutimi-Lefier, là où aura lieu l'élection partielle, veut que Martine Ouellet perde son référendum. Donc, celle qui est à la tête de ça, là, c'est Élise... Je lis son nom quelque
Élise
part.
Élise Gauthier.
Élise Gauthier, voilà, qui fera partie de la conférence de presse de demain.
Elle avait été candidate, elle, pour le Bloc, à un moment donné, si je me trompe pas.
Effectivement. Elle a... Et donc, toute l'organisation du Bloc au Saguenay-Lac-Saint-Jean a joint la Coalition pour l'unité indépendantiste.
Ouais.
Qui est née en fin de semaine, samedi, qui était grosso modo réunie tous ceux qui, encore à l'intérieur du Bloc, veulent que Martine Ouellet perde son élection. Donc, Mario Beaulieu en fait partie, entre autres. Ils disent qu'il y a 37 exécutifs de circonscription là, qui sont à l'intérieur de ce mouvement-là pour que Martine Ouellet perde son référendum. Donc, je vais juste te dire que ça va brasser un petit peu de main.
Je comprends.
Le fjord, et étant donné que tout ce qui grouille du Bloc québécois ou presque dans la région va prendre position contre Mme Ouellet.
Et par ailleurs, elle a fait connaître sur le site Internet du parti les 12 raisons pour lesquelles elle devrait rester chef.
J'ai un beau document ici que je te présente. 7 pages.
Oh, 7.
Pourtant, ça s'appelle Bref argumentaire, mais ça fait quand même 7 pages. Bref argumentaire, pourquoi voter oui au référendum du 1er 2 juin? Le oui, oui étant le camp de Martine Ouellette. Oui, oui pour qu'elle se maintienne en poste, oui pour un leadership renouvelé. Donc, alors il y a toutes sortes de, d'extraits là-dedans de pourquoi on devrait voter pour Martine Ouellette. Ils ont mis ça en ligne sur le site Internet. De la prose savoureuse. Et je le dis, écoute, sans arrière-pensée, c'est bien écrit.
Sans ironie,
non, c'est bien écrit quand même.
Oui, oui.
Je t'en lis un extrait.
Oui, s'il te plaît.
Alors, je vais tenter de prendre ma voix radiophonique FM. Alors, il faut relancer l'élan engagé avant des démissions injustifiées ne proposant qu'un retour en arrière stérile. Le nouvel élan commence par un oui à la mission du Bloc et un vote de confiance envers la chef qui défend cette mission. C'est au nom de la beauté et de la grandeur de notre projet de liberté qui nous enflamme et qui nous appartient tous que nous devons réunir nos forces.
Un petit peu de Gilbert Paquette en dessous de ça, je crois.
Peut-être, oui, c'est cela. Alors voilà, ça défile sur 7 pages, 12 raisons de voter en faveur de Martine Ouellette. Il y a même...
Et Paul roule des yeux.
Petit Paul
est fasciné.
C'est, j'ai une double conjonctivite, Bernard.
Un petit croc en jambe envers Gilles Duceppe. Parce que le point 3 s'appelle « Le Bloc doit changer d'orientation par rapport à Gilles Duceppe, à l'orientation de Gilles Duceppe. » Et là, on explique pourquoi.
Il le nomme?
Oui, oui. Manifestement, oh l'ancien chef du Bloc québécois et certains députés passés n'ont pas tiré les conclusions qui s'imposent des défaites. Et là, on a un point sur pourquoi Gilles Duceppe a tort. Alors voilà, vous pouvez aller lire ça sur le site Internet du Bloc québécois. Alors, on en a jusqu'au 1er et 2 juin.
On s'y précipite.
Il y a deux camps qui s'affrontent. Alors, les deux camps font valoir leur argument.
Très bien. Bon, ben écoute... Si on parlait un petit peu
des
de
tout centre... petits.
Oui, des tout petits.
Oui, oui
c'est
la...
ça, c'est l'avenir.
C'est l'avenir.
L'avenir,
tout à fait.
Oui.
Parce qu'ils vont grandir.
Oui.
Oui, une étude dévoilée par l'Observatoire des tout petits ce matin, qui en fait est une recension des différentes études, qui essaie de répondre à la question, mais où est-ce que les services sont de la meilleure qualité? Puis on voit qu'une fois de plus, ce sont dans les CPE que les services éducatifs sont de la meilleure qualité. Par contre, il n'y a pas vraiment eu d'amélioration depuis 2003. Ça a grosso modo stagné dans la qualité. Mais je trouve ça intéressant parce que ça permet de recadrer le débat. Parce qu'au début de la création du réseau de services de garde, on parlait beaucoup de permettre aux femmes de réintégrer le marché du travail, ce qui était un objectif très noble, mais ça devrait seulement être un des deux objectifs. Le deuxième, c'est les services éducatifs eux-mêmes.
Oui.
Et on sait, les études nous ont démontré dans les dernières années que plus on intervient tôt, plus on va avoir du succès. Il y a une période vraiment cruciale avant 5 ans où tes interventions vont avoir un maximum de succès. Puis si tu veux protéger l'égalité des chances, tu dois offrir des services éducatifs de qualité. Or, ce qu'on remarque, c'est que les services ne sont pas de la même qualité partout. Ils sont de meilleure qualité dans les CPE. Et malheureusement, les jeunes, souvent, qui auraient le plus besoin de services de qualité sont ceux qui y ont le moins accès. Et ça, ça force à repenser les promesses. Là, dans les dernières années, sous les libéraux, on sait qu'il y avait une espèce de scepticisme là, traditionnel par rapport au CPE. Pour eux, c'est une patente péquiste.
Exact.
Puis récemment, ils ont eu une approche très comptable où ils s'intéressent seulement à maximiser les crédits d'impôt puis le remboursement du fédéral pour donner le libre choix aux parents. Le libre choix, c'est bien beau, mais il faut que chacun des choix vienne avec un minimum de garantie de qualité. Ils ont commencé à corriger le tir avec un projet de loi l'année dernière, où ils commencent à resserrer les exigences, mais il y aurait sûrement encore du travail à faire.
Mais ce débat-là, depuis des années, il est centré autour de l'argent. Combien ça coûte envoyer nos enfants à la garderie, puis c'est quoi? Alors que dans le fond, les CPE, c'est pas pour ça qu'ils ont été créés. Là. C'est un facteur qui est important, que les femmes puissent retourner plus rapidement sur le marché du travail. Mais il y avait aussi le fait que ça serait le fun quand bas âge, on a une éducation de qualité. Ça s'est perdu de vue dans les dernières années.
Oui. Ouais. Ben, en fait, ça commence depuis quelques années, on recommence à en parler, mais ça s'est particulièrement perdu de vue dans la façon dont on a développé le réseau, un espèce de réseau développé dans la confusion totale, là, où là, on avait les CPE, puis là, on commence à développer le privé subventionné, le privé non subventionné, puis
exactement,
la composition du réseau a beaucoup changé depuis 15 ans. Là, on n'a pas fait ça avec une planification apolitique, là, en pensant d'abord et avant tout au service éducatif, pas tout, là.
Et l'autre débat qui s'en vient, surtout si la CAQ est élue, c'est la maternelle obligatoire à temps plein pour les 4 ans.
Et dans le rapport, on voit qu'il y a encore du chemin à faire. Par contre, à la décharge là, du jeune réseau de maternelle 4 ans, les données là, qui ont été amassées sur la qualité, ben, c'était peu après l'implantation des classes en 2013. Donc, dans le rapport, on prend soin de souligner que, attention, peut-être que ça a changé depuis, mais on voit qu'il y a des problèmes de qualité pour les maternelles 4 ans. Et une autre chose qui est soulevée dans le rapport, c'est le ratio. Dans les maternelles 4 ans, le ratio, ça va être de 18 jeunes pour un éducateur ou une éducatrice, alors que le ratio est inférieur dans les CPE. Pour les enfants de 4 ans, il est de 1 pour 10.
Une grosse différence, c'est quasiment le double. On y reviendra. Paul Journet, éditorialiste à La Presse, ça a été un plaisir. Tu reviens demain?
Je l'espère.
Absolument. Alec Castonguay.
Tu n'es pas en voie de l'extinction.
Non, non, exact. On va te protéger.
Protégez-moi.
Oh, oui, absolument. Alec Castonguay, chef du bureau politique au magazine L'Actualité.
Salut.
Merci
à demain.
Alec. Salut, à demain. Il y a Loïc qui s'en vient avec les informations internationales dans un instant.